Découvrez Une certaine raison de vivre, un grand roman dans lequel Philippe Torreton, l'écrivain, se révèle. Du grand massacre de 14-18, Jean Fournier revient indemne physiquement, mais broyé de l'intérieur. Alice, son fol amour, lui permettra-t-il de retrouver une certaine raison de vivre ? Passion amoureuse, intensité du théâtre, puissance de l'écriture et force immuable de la nature, Une certaine raison de vivre, plus qu'un premier roman, un grand roman de Philippe Torreton aux éditions Robert Laffont.
Mes chansons sont un peu comme les hommes. Elles sont un peu fleurs bleues, elles effeuillent la marguerite, elles se mettent en colère. Elles sont parfois, elles donnent des coups de griffe, elles font pattes de velours. Elles protestent, elles pleurent, elles chantent. C'est tout à fait normal, ça. Je ne crois pas qu'on puisse les classer. Je n'aime pas les étiquettes. Depuis un jour, j'ai envie d'être fleur bleue, puis le lendemain, j'ai envie d'être autre chose.
Vous êtes ici ?
Oui.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club. Ce soir, le magazine de l'actualité musicale fait son salut les copains d'abord. Spécial Brassens pour le 5e anniversaire de sa naissance. Tout le monde est au rendez-vous. Inflation de livres, d'albums, des hommages, des reprises, des soirées-concerts. Bref, on a tous en nous, en ce mois d'octobre, quelque chose de Brassens. Mais nos invités... plus que d'autres. Ce soir, pour évoquer le bon maître, comme il se définissait lui-même, Joël Favreau a dit oui. Bonsoir.
Bonsoir.
Le guitariste officiel, c'est vous. Par ailleurs, auteur, compositeur, interprète. Vous connaissez Brassens sur le bout de sa guitare, comme on peut le lire dans ses quelques notes avec Brassens, le livre que vous publiez. À vos côtés, c'est Françoise Canetti. Bonsoir Françoise.
Bonsoir Laurent.
Vous, c'est une autre histoire. C'est celle des débuts de Brassens, chanteur poussé par votre père Jacques Canetti, alias Socrate. C'est le surnom que lui donnait le grand Georges. Vous sortez un coffret de 4 CD avec des documents rares, des inédits, des reprises. C'est une véritable mine. On a aussi rendez-vous avec François Morel qui prépare sa soirée de concert Brassens, que j'aurai l'avantage de présenter sur France Inter à 7, vendredi 22 octobre. C'est la date anniversaire. François Morel qui signe avec Yolande Moreau un album Brassens dans le texte. Marion Guilbeault, Brassens, vous pouvez le voir en peinture.
Mais complètement Laurent, grâce à Robert Combas qui lui consacre une exposition à 7, bien sûr, et qui illustre également les chansons de Brassens dans un coffret de 10 vinyles.
Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles, Garo Gorille sur France Inter.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Joël Favreau, Françoise Canetti, c'est la rencontre autour de Brassens pour le centenaire de sa naissance. C'est pas la première rencontre, loin de là, vous êtes des complices depuis plusieurs années. Justement, première rencontre avec Le Sais-toi pour vous, Joël Favreau, qui avait été son guitariste officiel, c'est dans sa loge. Juliette Gréco était en première partie à l'époque, la prêtresse noire officie, vous dit-il. Vous avez eu un surnom, vous aussi, parce qu'il surnommait pas mal de gens, hein. Donc Socrate pour le père de Françoise Canetti. Il y avait pas mal de surnoms. Pour vous, ça a été comment ?
Ben, il me disait, quand j'arrivais chez lui, il me disait « Comment vas-tu, Galopin ?» Alors, j'ai cru que pendant un moment que j'en avais de l'exclusivité, mais je crois que c'était...
Tout le monde s'appelait Galopin.
De moins de 50 ans.
Pas tout le monde, mais enfin, Philippe Châtel, entre autres, c'était aussi un Galopin.
Pour quelle raison se surnommait-il le bon maître ?
Oh, je crois que c'est par dérision. Par dérision, justement. C'est aussi pour embêter sa gouvernante, Sophie... Il l'accusait. Vous voulez aller travailler chez Macias, vous préférez Macias à votre bon maître. Il aimait bien la persécuter.
La première fois que vous l'avez rencontré, vous étiez enfant, vous, Françoise Canetti. C'est en concert, c'est chez votre père, c'est où ?
J'avais 4 ans et c'est donc chez mon père, au Théâtre des Trois Baudets, où Brassens ramait littéralement, il faisait ses débuts. Il faisait ses débuts tous les soirs, c'était pas du tout un concert. Il est passé pendant 2 ans quasiment tous les soirs, et il chantait 2, 3, 4 chansons. Et vraiment, il était extrêmement mal à l'aise. Et je peux vous dire que ça marque quelqu'un, même d'enfant, de voir un adulte, un grand bonhomme comme Brassens, être tellement mal à l'aise devant 247 personnes qui l'écoutent et qui n'en reviennent pas.
Et ça l'a marqué d'ailleurs, on reviendra sur cette histoire, ça l'a marqué juste jusqu'à la fin de sa carrière. Vous ouvrez votre livre, Joël Favreau, sur une chanson, La Supplique, une histoire de contre-chant. Ça vous permet de dire quoi de Brassens et de votre rapport à lui ? Cette histoire de contre-chant sur La Supplique.
Il m'a parlé, à ma grande surprise, d'un projet de réenregistrer l'album de La Supplique, le seul qui n'avait pas de deuxième guitare. Et là, il m'a dit, alors là, ça parle de la mort, alors tu fais des contre-chants ironiques. Autant il avait besoin d'un rapport en public, d'homme à public, sans intermédiaire et sans fioriture, autant je crois qu'il avait compris que l'absence de sa présence sur un disque, ça méritait de renforcer un petit peu l'aspect musical.
Donc, ça signifie qu'en concert, il était seul avec
Pierre-Nicolas à
la basse, mais pas d'autres guitaristes,
non.
Alors que sur les enregistrements, il y a un deuxième guitariste.
Voilà.
D'accord, pour donner plus de profondeur en fait.
Que ça soit un peu moins spartiate, peut-être.
Alors, on vous a demandé, Joël, de choisir une chanson, et votre choix, c'est La Messe aux Pendus. Peut-être une raison sur le choix de cette chanson qui va tous nous plomber ?
Bon, il n'y a pas de raison que ce soit plombé. Je veux dire, en ce qui concerne les ecclésiastiques, eux-mêmes sont déjà plombés. Et là, au contraire, il apporte peut-être un côté positif de l'un d'entre eux, parce que autant ils ne pouvaient ne pas éprouver une affection particulière pour les porteurs d'uniformes, que ce soit militaires, policiers ou ecclésiastiques, autant ils savaient distinguer l'individu dans le corps de métier, et l'individu ça privilégiait son jugement.
Anticlérical, fanatique, gros mangeur d'ecclésiastique, cet aveu me coûte beaucoup. Mais ces hommes d'église, hélas, ne sont pas tous des dégueulasses. Témoin le curé de chez nous. Quand la foule qui se déchaîne pendit un homme au bout d'un chêne, sans forme aucune de remords. Ce ratichon fit un scandale et rugit à travers les stalles, mort à toute peine de mort.
Alors nous, au bureau, on s'est concerté, on s'est demandé mais quelle chanson nous on aurait pu choisir, et on a voté pour un Brassens plein de sous-entendus.
Il suffit de passer le pont, c'est tout de suite l'aventure. Laisse-moi tenir ton jupon, je t'amène visiter la nature. L'herbe est douce à Pâques fleurie, jetons mes sabots, tes galoches, et léger comme des cabris. Courons après les sons de cloche, ding ding dong, les matines sonnent en l'honneur de notre bonheur. Ding ding dong, faut le dire à personne, j'ai graissé la patte au sonneur. Laisse-moi tenir ton jupon, courons guilleur et guillerette. Il suffit de passer le pont et c'est le royaume des fleurettes. Entre toutes les belles que voici, je devine celle que tu préfères. C'est pas le coquelicot, Dieu merci, ni le coucou, mais la primevère. J'en vois une blottie sous les feuilles, elle est en velours comme tes joues. Fais le guet pendant que je l'accueille, je n'ai jamais aimé que vous. Il suffit de trois petits bonds, c'est tout de suite la tarentelle. Laisse-moi tenir ton jupon, j'aurais ménagé tes dentelles. J'ai graissé la patte au berger pour lui faire jouer une aubade. L'homme m'a mis sans croire au danger, faisons mille et une gambades. Ton pied frappe et frappe la mousse, si le chardon s'y pique dedans. Ne pleure pas mamie qui souffre, je te l'enlève avec les dents. On n'a plus rien à se cacher, on peut s'aimer comme bon nous semble, et tant mieux si c'est un péché, nous irons en enfer ensemble. Il suffit de passer le pont, laisse-moi tenir ton jupon. Il suffit de passer le pont, laisse-moi tenir ton jupon.
Il suffit de passer le pont, version 1953, qu'on trouve dans ce coffret que vous avez édité, Françoise Canetti. Elle est à toi, cette chanson. Salut les copains d'abord, ce soir spécial Brassens, vu par Joël Favreau et Françoise Canetti. Alors avant de devenir son guitariste officiel, dans le courant des années 70, vous avez d'abord été en tournée avec lui et Bobby Lapointe. C'est Jacques Canetti, hein, votre père Françoise, l'ex-directeur des Trois Baudets, directeur artistique chez Philips, qui avait organisé la tournée, on reviendra là-dessus, un manager plutôt retors, parce qu'il voulait au départ que vous dormiez sous la tente, on est au mois de novembre et en décembre.
Oui, mais
Eh oui, Françoise, votre père était retors aussi. C'est dans le livre de Joël.
Oui, alors, c'est anecdotique, bien sûr, mais je crois que... c'est Colette qui m'a raconté ça. Je ne suis pas témoin oculaire des négociations, parce que je n'étais qu'un humble musicien accompagnateur.
Vous étiez guitariste, Brassens aussi, vous, un fou de Django Reinhardt. On écoute tout de suite Maxime Le Forestier sur la guitare de Brassens et la première fois où il s'est fait traiter de petit con.
C'était à Bobino, c'était une grosse semaine après les débuts. J'avais remarqué qu'il changeait ses cordes tous les jours parce qu'il transpirait beaucoup.
Donc les cordes rouillaient.
Les cordes rouillaient et donc il fallait qu'il en mette des neuves. Et les cordes neuves, tu sais très bien, ouais, mon cher, que ça met un certain temps à se stabiliser. Donc il passait des heures à tirer dessus. Et elles étaient jamais justes pendant le concert. Donc il se réaccordait, il n'y avait pas encore d'accordeur électronique. Donc tout ça, ça montait, il finissait un quart de tour au-dessus. Pierre-Nicolas, lui, de toute façon, qui avait une oreille parfaite, corrigeait les choses. Et j'avais été aux États-Unis déjà, donc j'avais remarqué certaines marques de cordes qui rouillaient moins vite et qui surtout se stabilisaient mieux. Donc un jour, toc-toc, j'ai remarqué que vous changiez vos cordes. D'abord, non, tu vas me dire tu, parce que quand on me dit vous, ça me vieillit. Et puis, je lui ai proposé des cordes différentes. Un petit con, tu vas pas m'apprendre mon métier. Mais ça a cassé la glace, quoi. La première chose qui est importante, à mon avis, chez Brassens, c'est le tempo. C'est la régularité du tempo. C'était un métronome, lui. On s'en est aperçu au Grand Échiquier, quand ils avaient écrit des arrangements sur certaines de ses chansons, mais les violons, ça a une certaine inertie, etc. Et lui, il était paniqué, parce que l'orchestre avait une double croche de retard sur lui, quoi. C'était terrible. Donc la première chose, le tempo. Après, évidemment, les harmonies, mais à l'intérieur des harmonies, il y a des champs de basse. Si vous avez le pouce un peu malin, vous pouvez, avec votre pouce, faire un contre-champ avec les basses. Et puis quoi, jouer beaucoup.
Maxime Le Forestier, qu'on avait reçu ici justement pour son hommage à Brassens. Joël Favreau, une réaction par rapport à ces déclarations?
J'ai du mal à voir Brassens en train de paniquer quand même. Le mot me paraît un peu fort. Mais c'est sûr que... j'ai des doutes quand même. Il jouait dans sa loge pendant 2 heures avant de chanter. Ouais. C'était soi-disant pour stabiliser les cordes, mais je crois que c'était pour le plaisir surtout, quoi. Il avait un prétexte en or, mais...
Parce que les concerts duraient longtemps aussi, non?
2 heures.
Lui. Et il y avait une première partie.
Et puis alors, à la fin du concert, et ça, c'est quand même quelque chose dont on ne se souvient pas, c'est que Brassens passait 2 à 3 heures à recevoir son public et à parler avec les gens qui venaient le voir. Ça, c'était absolument incroyable.
Qu'est-ce que Brassens aimait dans votre jeu, Joël Favreau?
Je crois que ça devait lui rappeler un peu quand même. Il y avait une petite teinte de jazz. Puis surtout, aussi, j'avais compris quand même, parce que comme je fais des chansons moi-même, ouais, j'étais moins préoccupé par l'idée de faire un numéro de guitariste que de servir les chansons. Et c'est ça qui m'importait avant tout. Et il m'a fait confiance. Et ça, c'était un grand honneur, faut dire, quoi.
Et qu'est-ce que vous avez appris avec lui au niveau du jeu? Parce qu'on parle souvent de guitare sommaire, d'ailleurs, c'est...
Ça, c'est Bobby Lapointe, la guitare sommaire.
Exactement. Quelqu'un qui ne connaissait pas le renversement, alors là, on est dans des termes techniques, enfin, qui le connaissait, mais qui n'en avait pas besoin, peut-être qu'on peut expliquer ce que ça veut dire.
Les renversements, c'est des façons différentes d'ordonner les notes d'un accord. Ouais. Alors, on parle du premier renversement, quand, au lieu de la note fondamentale, un do majeur, que ce soit do à la basse, vous avez un mi à la basse, alors à ce moment-là, ça devient le premier renversement, etc. Sol, c'est le deuxième renversement. Mais il n'avait pas besoin de se préoccuper de ça, parce que Pierre-Nicolas faisait les basses.
Exactement.
Donc il n'avait pas besoin de les faire avec son pouce, comme disait...
Le renversement était déjà sur scène avec Pierre-Nicolas. Brassens sur scène, c'est une chose. Brassens en studio, c'est autre chose. Le studio, c'était pas facile pour lui. Il n'était pas très heureux en studio, Joël Favreau.
Je sais pas si c'était pas facile, encore une fois.
C'est ce que vous dites, hein.
C'est pas heureux
en studio et voilà, pas très facile pour lui.
C'est pas ce qu'il préférait, quoi. Il préférait évidemment l'écriture et quand même le chanter en direct, bien sûr. Mais il se pliait à l'exercice parce que ça faisait partie des choses qu'il
préfère.
Bien entendu,
mais qu'est-ce qui ne lui plaisait pas? Quelles étaient ses difficultés en studio? Le fait de mettre un casque, de chanter faux quelquefois d'ailleurs. Vous l'avez repris.
Une fois, mais c'est parce que je crois qu'il devait avoir quand même des problèmes d'audition. Il a dû avoir quand même l'audition qui baissait. Et s'il n'avait pas un bon retour de casque, c'était difficile. Pour n'importe qui, d'ailleurs. Si on s'entend pas bien chanter, comment voulez-vous chanter juste? Ça lui est arrivé une fois, mais j'ai fait un scandale quand je lui ai dit que c'était pas une bonne prise. Mais il l'a pris très simplement, et la deuxième était la bonne. Simplement, c'est parce qu'on avait monté le retour dans le casque.
Vous voyez douter par rapport à cette histoire de studio de ne pas être très heureux en studio, Françoise Canetti.
En fait, ça allait très très vite avec Brassens. C'est-à-dire que quand il rentrait en studio, que ce soit à Pleyel, son premier enregistrement, ou bien à l'Apollo, et puis ensuite à Génère, vraiment, il enregistrait avec mon père et avec le père Tavernier, André Tavernier, que tous les artistes de cette époque ont connu. Et ça allait très très vite. C'était première prise, deuxième prise. Il n'y avait pas de troisième prise. Parce que d'abord, il ne voulait pas. Et puis mon père trouvait que la voix allait se fatiguer. Et mon père était toujours l'adepte des premières ou des deuxièmes prises. Et même si c'était un peu faux, on s'en foutait. Parce qu'il y avait cette sincérité qui transparaît dans l'interprétation de Brassens. En tous les cas, le Brassens que j'ai connu jusqu'en 1962, lorsqu'il enregistrait avec mon père chez Philips, c'était comme ça. Peut-être qu'ensuite, ça s'est peut-être un peu complexifié, peut-être, sûrement.
Dans les années qui ont suivi. Alors, la scène avec Brassens était très particulier, plein feu, pas d'effet, pas de déclaration. Il ne voyait pas le public, elle me racontait qu'il était ébloui par les projecteurs, et c'est ce qu'il voulait. Les raisons, peut-être, on peut les chercher du côté de ses débuts.
À mes débuts, je n'avais pas pensé chanter en public. J'avais pensé composer les chansons pour des interprètes. Et je ne m'étais pas du tout préparé à passer devant, à demander directement leur opinion à des gens sur ce que je faisais. Et je m'y suis brusquement trouvé. Un jour, on m'a amené chez Patachou pour lui apporter les chansons. Par accident, elle m'a fait chanter devant le micro. Et ça lui a plu. Elle a trouvé que ça plairait au public. Et elle m'a fait passer en scène le soir même. J'étais un peu contracté. Et les gens aussi, le public aussi. Et ça m'a marqué très longtemps. Dès que j'entrais en scène par la suite, j'avais l'impression que la plupart des gens n'aimaient pas ce que je faisais ou étaient choqués. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Et alors je me suis replié sur moi-même, je me suis enfermé. J'ai donné l'impression que de mépriser tout le monde et de ne tenir compte de personne. À la vérité, c'est une espèce d'orgueil, une espèce d'autodéfense. J'avais peur.
Françoise Canetti.
Oui, je confirme tout à fait. C'est-à-dire que quand il fait ses débuts chez Patachou, vraiment, il est auteur-compositeur et Patachou aimerait bien le faire chanter. Mais lui, il n'a pas tellement envie. Et Patachou va téléphoner à mon père en lui disant, écoutez, Canetti, j'ai quelqu'un chez Patachou, chez moi, qui est absolument formidable. Montez à la butte, venez le voir. Et quand mon père et ma mère viennent le voir, vont le voir, ils sont littéralement mais sous le choc. Parce que Brassens n'est pas un interprète, mais il a vraiment des joyaux, des chansons, avec une alchimie extraordinaire, un texte et une musique qui se marient extraordinairement bien. Et mon père va lui proposer immédiatement de faire ses débuts au Théâtre des Trois-Baudets, où il va, petit à petit, devenir l'interprète de ses propres chansons.
On va retrouver Brassens et ses copains dans quelques instants, mais tout de suite, c'est Gaël Faye, grand admirateur de Brassens. Je me souviens d'une reprise excellente de La Mauvaise Réputation. Ce soir, il taille un costard au boomer, au conservatisme d'une partie de la génération des baby-boomers, une posture qui aurait plu au grand Georges.
Qu'il voulait pas trop le rap, la musique afro. Maintenant que tout le monde est accro, ouais, dis-nous qui sont les patrons. Le style un blanc, bas un boubou. On fait tout, appelle-nous foubou. J'fous les seuls que tout bouge et secoue. J'mets le fire dans ton igloo. J'frappe à coup de jab comme un nunchaku. Check si tu connais la ref. Mon amboka, le monde est fou. T'inquiète, on va réparer sa tête. Allez, mettez pas dans mes pas. Kigali jusqu'à Goma. Décibel à dose létale. Yeah, boum et boum et les baffes. Fais boomer les boomers, ok. Slash et s'égayer. Fais boomer les boomers. La vie s'éveillait. Fais boomer les boomers. Boomer, ça y est, mal est fait. Fais boomer les boomers. Mets du sel dans dans ta vie tant mieux. Bébé, je mets du pili pili. Je fais danser les jeunes et les vieux comme le slap bandabilili. Chez nous y'a pas de tube de l'été, non, toute l'année c'est l'été. Si tu libères un peu ton esprit, ton cul suivra la mélodie. Je vais te faire courber un peu les chines, mais cette fois c'est pas pour bosser. Poésie pour bouger les reins, du rein jusqu'à la roue zizi. Viens me coller un billet sur le front, paraît que bientôt le monde s'effondre. Sur fond de fonte de glaçons, je fais boum et boum et le caisson. Chanter, danser, fais boumer les boomers. Okay. Slasher, s'égayer, fais boumer les boomers. La vie s'éveiller, fais boumer les boomers. Boomer. Ça y est, mal est fait, fais boumer les boomers. Chanter, danser, fais boumer les boomers. Okay. Slasher, s'égayer, fais boomer les boomers. La vie s'éveiller, fais boumer les boomers. Boomer. Ça y est, mal est fait, fais boumer les boomers. Les infrabasses, les boomers vibrent, fait péter. Allumer les briques, le bal masqué venait fêter. J'construis ma vie, mon œuvre, j'suis dans le BTP. Mon son lourd, mon gros boucan vous laisse hébéter. C'est chaud, c'est sale, c'est sueur, suave, c'est l'été. Coup dans les flancs, les dents, le style est capé d'épée. Vos flots sont clonés, pompés, arrêtez tété. Sans le RAP, je me demande ce que j'aurais été. Je me la coule à la douce, à la coule, je me roule, je roucoule dans mon coin. Quand la foule est debout, je l'avoue, me défoule, lève le poing. Quand y a doute, je déroute, je dérive, je m'arrête et puis je refais le plein. Puis le groove reprend, il me grise et il roule sans son frein.
Sur France Inter.
Boué, boué, au bal masqué, boué, boué. Elle danse, au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, boué, boué, de danser, 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 danser.
Côté club.
Côté club, salut les copains d'abord avec vous, François Morel. Bonsoir, François.
Bonsoir Laurent.
Vous connaissez tout le monde ici, Joël Favreau, Françoise Canetti.
Oui.
Bonsoir.
Bonjour à tout le monde.
Bonsoir François.
Alors avec vous François Morel, c'est Brassens dans le texte, un album et une soirée de concert, Brassens à 100 ans, ce sera le 22 octobre à 7, c'est le jour de l'anniversaire de sa naissance. On va bien sûr revenir sur ce que vous avez prévu, mais d'abord Brassens, vous l'avez vu en concert, vous l'avez rencontré, vous êtes allé le voir dans sa loge.
Oh non, j'aurais jamais osé. Je l'ai vu sur scène, je crois que c'était en 77. J'étais allé un dimanche après-midi à Bobino et j'avais été ébloui par l'homme, mais je l'étais déjà depuis plusieurs années. Mais j'ai vu une seule fois et j'ai jamais osé lui adresser la parole.
Françoise Canetti, je vous voyais réagir à cette date.
Bah oui, parce que 77, c'était les derniers concerts de Georges Brassens.
Ouais,
il arrêtait
absolument.
En mars 77. Voilà, donc vous l'avez vu vraiment au beau moment. Enfin, c'était vraiment le dernier moment pour le voir.
Votre... Il y a eu pas mal de beaux moments, j'ai l'impression.
Oui, oui.
Votre Brassens, à vous, c'était qui ?
D'abord, c'était un homme qui avait une beauté dans le regard. C'était quelqu'un d'extrêmement apaisant quand on le voyait à la télévision. C'était un beau monsieur qui se comportait bien, toujours. Mais puis, c'était pour moi la découverte sûrement de la poésie quand j'ai eu une quinzaine d'années, que je découvre ses textes et que j'adore ça. Et puis aussi la découverte de la poésie et de l'insolence en même temps. Donc c'est plein de choses qui fait qu'on se construit avec des gens comme ça, avec des modèles si merveilleux.
Une soirée hommage, donc Brassens dans le texte, ce sera à 7. Comment vous avez conçu ce concert dans sa ville ?
J'ai conçu comme j'ai pu en demandant à des amis de venir m'aider, c'est-à-dire des gens qui l'aimaient beaucoup. Et il y a des gens dont j'étais pas sûr. D'ailleurs, j'ai tourné cet été avec Judith Chemla. Et quand
actrice et chanteuse.
Quand je l'ai quittée, ouais, je l'ai rappelée, je lui ai dit, mais tu aimes Brassens? Elle m'a dit, ouais, j'adore. Et je lui ai dit, tu veux pas venir chanter? Et tout de suite, elle m'a dit, ouais, j'aimerais bien chanter la prière et des passantes. Donc, c'est un peu des rencontres de hasard, et puis aussi des complicités anciennes avec Juliette, avec Antoine Salaire, Lucrèce Sacella, Mosma, et aussi Thibaut de Fever, qui est un merveilleux chanteur et un merveilleux guitariste.
Je sais que l'on entendra aussi la parole de Jean-Louis Trintignant. Quel lien Trintignant-Brassens-Morel ?
Le lien, c'est que Jean-Louis est venu plusieurs fois voir mes spectacles. La dernière fois, il est venu voir un spectacle et il m'a rappelé le lendemain matin pour me dire « Est-ce que je peux revenir ce soir parce que je voudrais être mieux placé ?» Alors j'ai dit « Je me suis arrangé pour que Jean-Louis revienne le soir même. » Et puis, c'est un fou de poésie. Et moi, c'est un rêve que j'avais. Je me suis dit « Ça serait formidable que Jean-Louis Trintignant puisse dire des poèmes de Brassens. » Enfin, dire des textes, des chansons comme si c'était des poèmes. Mm-hmm. Et puis, c'est un peu compliqué d'en parler parce que je suis pas sûr qu'il viendra. En fait, j'ai eu un bonheur inouï. Je suis rentré du Jura il y a quelques mois et sur la route, Jean-Louis Trintignant m'a appelé et il m'a dit « François, est-ce que je peux te réciter les textes de Brassens ?» Et je me suis dit « J'ai quand même une très belle vie. Je suis en train de remonter dans ma voiture et Jean-Louis Trintignant me récite des textes de Brassens. » Et c'est un très beau moment. Mais en ce moment, il est souffrant, il va pas bien, et je suis pas sûr qu'il pourra se déplacer pour venir avec nous, et je le regrette infiniment.
Vous vous souvenez des textes qu'il a pu vous réciter? Quel type de texte vous avez choisi?
Il a choisi le grand chêne. Il vivait en dehors des chemins forestiers, ce n'était nullement un arbre de métier. Il n'avait jamais vu l'ombre d'un bûcheron, ce grand chêne fier sur son tronc.
François Scanetti, vous avez une question pour
Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'écoute, mais je suis admirative. Vraiment, voilà. Merci.
On va prendre rendez-vous, François Morel, pour cette soirée à 7 et sur France Inter. Ça sera donc vendredi, 21h-23h, mais en avant-goût. On va écouter tout de suite ce duo, Fernande, entre vous et Yolande Moreau. J'avoue que ça m'a fait un peu penser au Je t'aime moi non plus de Bourvil et Jacqueline Maillan. Je me trompe?
Rétrospectivement, ça m'a bien fait penser aussi.
Comment vous avez construit cette chanson avec Yolande Moreau?
Ça s'est pas construit, ça s'est déconstruit. Au lieu de dire Fernande, à un moment, je me suis amusé à dire Yolande, et puis ça nous a fait rire, et on l'a gardé, voilà. On s'est amusé sur une vingtaine de textes de Brassens. On a vu ce qui pouvait être dramatisé, ce qui pouvait ressembler à des scénettes de théâtre. Quand on m'a fait cette proposition, je me suis d'abord dit, si c'est seulement pour dire Brassens, ça va pas me plaire, parce que ce qui manquerait quand même, s'il y avait que des paroles, c'est la musique de Brassens. Donc je voulais absolument que la musique soit présente, et Antoine Salaire a fait en sorte que les arrangements soient très très présents, et puis voilà, on déplace un peu les chansons. Évidemment, ça ne remplace pas l'étude, enfin ça ne remplace pas l'écoute des chansons de Brassens par Brassens, qui reste quand même le must absolu.
Je crois que François Scanetti est particulièrement fan de votre version très Je t'aime moi non plus de Fernande, de François.
Alors moi, non, je veux dire, François, moi je suis fan de tout votre disque, parce que je l'ai écouté avec beaucoup d'attention et je trouve que c'est vraiment, vous faites l'apport à la chanson d'un grand comédien qui interprète Brassens autrement, en montrant, en pointant certains aspects qu'on ne voit pas toujours. Voilà. Et donc, je trouve que c'est disque. On peut pas passer à côté de ce disque. C'est vraiment, il faut l'écouter. Voilà.
Vous l'avez entendu, Joël Favreau, le disque?
Oui, je l'ai entendu. Et je trouve que c'est un éclairage vraiment très, très, très intéressant qu'il amène. Avec Yolande, alors là, c'est indispensable. Évidemment.
On a bien fait de vous appeler, alors, hein, François Morel.
Ah bah oui,
tu parles. Merci. Très bien. On se retrouve le 22 tout de suite. Yolande. Ben, je bande. Fernande.
Une manie de vieux garçon. Moi, j'ai pris l'habitude d'agrémenter ma solitude aux accents de cette chanson. C'est cette mâle ritournelle, cette antienne virile qui retentit dans la guérite de la vaillante sentinelle. Quand je pense à Yolande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi.
Allez, donc.
Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore.
Ah bon?
Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus.
La bandaison, papa, ça ne se commande pas.
Afin de tromper son cafard, de voir la vie moins terne, tout veillant sur sa lanterne, chante ainsi le gardien de phare. Après la prière du soir, comme il est un peu triste, chante ainsi le séminariste, à genoux sur son reposoir. Quand je pense à Yolande, je... Ah, je... Oh,
marche bien.
Quand je pense à Félicie, je...
C'est reparti.
Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je... Encore. Mais quand je pense à lui, là, je...
Ouais.
Ah. Plus.
La bande des eaux, papa, ça ne se commande pas.
Et non. À l'étoile où j'étais venu pour ranimer la flamme, j'entendis, ému jusqu'aux larmes, la voix du soldat inconnu. Et je vais mettre un point final à ce chant salutaire en suggérant aux solitaires d'en faire un hymne national. Quand je pense à Fernande, je bande.
C'est qui, celle-là ?
Quand je pense à Félicie, je bande aussi.
Ah ben voilà.
Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais ouais. Quand je pense à lui, là, ben...
C'est foutu.
La bande des eaux, papa, ça ne se commande pas.
Ah, mais là, oh, attends,
maman. Ouais.
Non, j'ai parlé
ouais.
Trop vite.
Pardon.
Fernande, une version impayable par François Morel et Yolande Moreau. Fernande, un titre repris aussi par Carla Bruni dans une autre version qui figure dans le coffret « Elle est à toi » cette chanson. 4 CD avec des reprises, on va y revenir. Des entretiens inédits, les artistes de ces premières parties que vous avez tout compilé. Françoise Canetti, on retrouve Bobby Lapointe, Maxime Le Forestier. On vous retrouve bien sûr aussi Joël Favreau puisque vous avez fait les premières parties. C'était comment de faire la première partie de Brassens ?
Oui, c'était un privilège formidable d'être devant un public nombreux et quand même qui était sensible. Oui, non, mais qui était acquis à Brassens. Attention,
oui, c'était ça.
C'était pas forcément gagné, mais au moins on pouvait montrer ce qu'on faisait devant des gens qui avaient quand même un certain degré d'écoute, et ça, c'est un privilège.
Un CD aussi dans ce coffret avec Georges Brassens, René Fallet et Pierre Arditi. Quel en était l'enjeu? Françoise Canetti.
En fait, Brassens, vous savez, enfin, vous connaissez l'amitié que Brassens avait pour René Fallet. Il aimait beaucoup la poésie de René Fallet. Et un jour, il a téléphoné à ma mère en disant, ma mère qui s'appelait Lucienne Vernet, Lucienne Canetti, qui a été d'ailleurs la première créatrice des chansons de Brassens pour enfants. Et il a téléphoné à ma mère qui était mélodiste et il lui a dit, Lucienne, vous devriez lire les poèmes de René. Notamment « Comment fais-tu l'amour cerise ?» Il y a certains poèmes que vous devriez mettre en musique. Je pense que ça serait vraiment joli. Et ma mère s'y est mise. Et elle a écrit les musiques de 10-11 poèmes de René Fallet. Et puis après, elle est tombée malade. Et ces poèmes sont restés inconnus. Et à l'occasion de ce coffret, j'ai ressorti ces poèmes. J'ai été voir Agathe Fallet. Et puis je suis allée voir Pierre Arditi en lui proposant d'interpréter ses poèmes. Et puis j'ai demandé à Joël Favreau s'il accepterait de...
Il est de tous les coups, Joël
Favreau. Il est de tous les coups. Alors, il y a Joël Favreau
une fois.
Et Vincent Faber qui sont là et qui ont fait de ces chansons des petits joyaux.
Et puis il y a un autre CD passionnant, c'est les années 3 Baudet, les années où votre père entre en jeu, hein, Françoise Canetti, car c'est lui qui va lui donner sa chance avec Patachou, on en parlait tout à l'heure. On écoute tout de suite Jacques Canetti qui recontextualise sa découverte de la voix de Brassens à une époque où on n'attendait pas du tout ça.
Au moment où j'ai commencé cette espèce de recherche des auteurs-compositeurs, on recherchait surtout des gens qui avaient de belles voix. On voulait des belles voix, c'était l'époque de Luis Mariano et autres. Et moi, je n'ai jamais été attiré.
Lui recherchait au contraire les vilaines voix. Quoi.
Souvent,
Il l'a prouvé.
Oui, je sais à qui il pense.
Oh, à moi aussi, on peut
non,
pas dire.
Non, pas tellement. Voilà,
il n'y a pas eu de voix de garage, en tout cas, dans vos poulains.
Non, sûrement pas. Mais en tout cas, je considère que la voix est donc ne vient qu'en troisième position. La chose la plus importante, c'est quand même la musique. Et la musique vous permet de mieux aimer le texte.
Bon, Georges Brassens, c'est la véritable apologie de Jacques Canetti. Il n'a pas un seul défaut.
Oh, il a sûrement des défauts, comme tout le monde d'ailleurs, qui n'en a pas. Mais peut-être que sa qualité éminente, là précisément, la qualité qui consiste à lui faire rechercher le jamais vu, le jamais entendu, devient parfois un défaut parce qu'il le ferait presque exprès, vous voyez, il le ferait presque exprès de chercher des artistes qui ne marchent pas et dont les autres ne veulent pas. Ça, c'est son petit travers. C'est sûrement ce qui aurait pu m'arriver si, à mes débuts, quand le public venait se plaindre de moi, quand les journalistes écrivaient des articles, pas tous d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui faisaient des articles dithyrambiques, mais quand les journalistes se plaignaient en lui disant qu'il se trompait, s'il m'avait abandonné, là, s'il m'avait dit non, ça ne marche pas, vous partez, quoi, peut-être que je ne serais pas là en ce moment.
Les débuts n'ont pas été si faciles que ça, hein, pour Brassens, François Canetti.
Pas facile du tout. Pas facile du tout, parce qu'il choquait les gens. Parce qu'il avait une langue qui choquait les gens, et parce que dans ses chansons, il y avait des mots, des gros mots, comme on dit, et vraiment, bien que ce ne soit pas du tout trivial ni vulgaire, il y a des gens que ça choquait. Et ces disques ont été immédiatement censurés. Vraiment, c'était très compliqué pour Brassens. Beaucoup moins compliqué pour Brassens que pour Brel.
Par exemple.
Donc, si vous voulez, tout est très relatif. Mais c'est vrai qu'au Trois Baudets, j'ai eu le privilège, petite fille, de voir beaucoup d'artistes qui travaillaient énormément, qui gênaient les gens, qui étaient pionniers dans leur langue, dans la façon, dans les thèmes qu'ils abordaient. Et voilà, et qui travaillaient énormément et qui devaient affronter un public qui n'était pas facile du tout.
Vous étiez enfant, vous le dites. Quels sont les souvenirs d'enfance que vous pouviez avoir avec Brassens? Je vous pose cette question parce que je serais curieux de voir comment Brassens s'adressait à des enfants.
Alors justement, Brassens, parmi les souvenirs que j'ai avec Brassens, parce qu'en fait, on parlait, c'est-à-dire que j'ai eu vraiment de la chance, mais mes parents, on était toujours, comme mon père et ma mère travaillaient beaucoup, ils nous emmenaient absolument partout et on pouvait aussi assister au déjeuner qu'ils avaient avec les artistes qui venaient déjeuner à la maison. La condition, c'était de se taire et d'écouter. Et à la fin du repas, oui, c'est normal quand même, écouter Brassens.
On a changé d'éducation, François Canetti.
Non, enfin, écouter Brassens, c'est quand même pas mal, quand même, il faut pas pousser. Et donc, à la fin du repas, on avait le droit, Bernard, mon frère, et moi, de poser des questions. Et moi, je me souviens, j'avais posé une question à Brassens, c'était « Pourquoi tu veux pas avoir d'enfant ?» Parce que ça m'étonnait beaucoup qu'un homme comme lui n'ait pas envie d'avoir quelqu'un d'aussi petit que moi. Et il m'avait vraiment répondu, d'abord il m'avait répondu pas du tout en bêtifiant. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu le sentiment, avec les artistes de mon père, d'être un enfant. On parlait avec nous, qui avions 5, 6 ans ou 7 ans, d'une façon absolument normale. Et Brassens m'avait dit que sa petite amie ne pouvait pas avoir d'enfants, donc c'était Pipchen, qui venait aussi, bien sûr, à la maison, et que avoir des enfants, c'est bien, mais s'en occuper, c'est mieux. Et qu'il ne pourrait pas s'en occuper avec le métier qu'il faisait et les occupations qu'il avait. C'est-à-dire, ses chansons l'occupaient. Et donc, et il nous donnait, comme ça, des réponses qui m'ont construite, comme a dit Joël tout à l'heure, Brassens fait partie des gens qui m'ont construite à travers non seulement ses chansons, mais aussi ce que j'ai pu écouter à la table de mes parents.
Il parlait politique, justement, à la table de vos parents?
Très peu. Très très peu. Je l'ai pas. En fait, ça riait beaucoup. Chez nous, ça riait beaucoup. On se mettait en boîte. On parlait des tournées. On parlait de l'abbé Brel. Qu'il aimait beaucoup.
L'abbé Brel.
Ouais, l'abbé Brel. C'était vraiment.
Jude Gréco, la prêtresse noire.
Oui, voilà. Bon, mon père Socrate. Pourquoi Socrate? Voilà.
Si, parce qu'il faisait
maïeutique spéciale.
Ben, oui, tout à fait. Ça, je vois tout à fait.
Oui, parce qu'en fait, mon père ne dirigeait pas ses artistes à l'époque. Les directeurs artistiques dirigeaient leurs artistes. Mon père ne dirigeait pas ses artistes. Il leur posait des questions.
Il leur faisait croire qu'eux avaient l'idée qu'il avait lui.
Exactement, c'est ça aussi ce qui est
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'était ça, vraiment.
Vous avez parlé politique avec lui, Joël Favreau?
Très peu, mais même d'une façon un peu détournée. C'est-à-dire que je suis arrivé un jour chez lui, je me souviens, c'était fin 68 ou début 69, j'avais découvert Les dieux en soif d'Anatole France, un bouquin qui se passe quand même pendant la Révolution, où un jeune plein d'idéal se retrouve accusateur public. Et c'est écrit avec... mais tellement d'humour. Moi, je lui dis, mais écoute, c'est dingue, c'est pas un auteur de dictée, alors seulement. Et il est marrant. Et il me dit, ah, tu aimes ça? Et puis il est monté à l'étage, il est allé chercher une dizaine de livres d'Anatole France qu'il avait fait acheter par Gibraltar d'avance et qu'il avait fait relier au cas où un copain s'y intéresserait. Et là, je crois que j'ai franchi une étape dans la relative intimité.
Brassens est devenu une légende en France. À 7, c'est un totem pour les Sétois. Marion, vous avez eu rendez-vous avec un des plus agités.
Ah oui, Laurent, j'ai eu une conversation méridionale animée avec Robert Combas hier au téléphone. Robert Combas, grand Manitou de la figuration libre, artiste fantasque de renommée internationale. Il a inauguré vendredi dernier au musée Paul Valéry à 7 une exposition. Robert Combas chante 7 et Georges Brassens. Alors, il lui avait déjà tiré le portrait en 1992 et ses peintures illustrent aussi un coffret de 10 vinyles qui sort chez Universal. Et je lui ai demandé comment les chansons de Georges Brassens étaient arrivées dans sa vie et dans sa peinture.
Oui, à 7, disons que c'est comme c'est un enfant du pays, tout le monde écoute Brassens, surtout les gens de la génération d'avant moi. Moi, c'était encore un petit problème, parce que moi, à l'époque, j'étais inspiré par la musique électrique plutôt que la musique de Georges Brassens.
Parce que vous ne vous êtes donc jamais rencontrés, il y a plus d'une génération d'écart entre Georges Brassens et vous, mais alors il y a une légende qui court, qui dit que vous auriez été sur un balcon et que vous l'auriez vu passer, c'est vrai?
Non, moi simplement je suis passé dans une rue et c'était lui qui était sur le balcon.
Ah, c'était lui qui était sur le balcon, d'accord.
Je savais par réputation que Brassens était paranoïaque et détestait qu'on l'embête et qu'on lui demande des choses. Et donc, en général, Brassens, on le voyait rarement à 7, il se cachait avec ses copains, dans les temps, et il se baladait souvent à 5h du matin sur les quais de 7, pour simplement voir personne et que personne l'embête.
Est-ce que votre façon de le dessiner a changé, votre regard sur lui a changé depuis 1992, par exemple?
Pas vraiment, non. Dans le sens que moi, je fais plusieurs portraits, peut-être pas très ressemblant, mais qui en fin de compte forge un personnage, plutôt que faire un portrait ou une photographie de Brassens. Voilà. Donc je ne suis pas très réaliste comme peintre. L'esthétique Brassens, pour moi, c'était du noir et blanc, mais j'ai essayé de faire moi du Brassens comme moi je le vois, ça veut dire prendre les choses plutôt du dedans de Brassens, et que c'est beaucoup plus coloré donc que ce noir et blanc dont les photos nous montraient, puisque évidemment c'était très minimal, avec son contrebassiste en noir et blanc souvent. Et les peintures que j'ai faites de ces chansons sont des peintures gigantesquement naïves, bon, point de vue du trait.
Et vous vous amusez également à faire des titres à rallonge sous vos portraits de...
Oui, je me suis amusé à l'époque parce que je voulais surtout pas être très... je voulais pas avoir trop de respect, un peu irrespectueux, un peu comme Brassens, pour pouvoir entrer dans les choses de Brassens et dans le sens de ses chansons. Ça veut dire que souvent, j'ai été obligé à une époque de faire un tableau, évidemment, avec un type qui jouait du tambour avec ses parties génitales, puisque c'est Brassens qui l'avait marqué dans son tableau. Trompette de la renommée.
Brassens, c'est le symbole de quoi pour vous? Qu'est-ce qui vous intéresse chez lui? C'est ce côté gaillard, libertaire?
Brassens, c'est un personnage unique qu'on peut reprendre, mais on peut pas chanter comme Brassens. D'ailleurs, il n'a pas l'accent du Sud, il a un accent particulier. Et Brassens, c'est un être à part, c'est une espèce de géant de la chanson. Il est hors mode, voilà. C'est clair et net, quoi.
Merci beaucoup, Robert Combas.
De rien, merci. Au revoir.
Je rappelle donc l'exposition Robert Combas chante 7 et Georges Brassens, c'est au musée Paul Valéry à 7 et c'est jusqu'au 31 décembre 2021 et le coffret de 10 vinyles de Brassens illustré par Robert Combas est sorti le 8 octobre chez Universal et s'est tiré à 700 exemplaires, collector donc.
Vous étiez allé le voir à 7 Paul Favreau?
Je suis allé avec lui quand il a tourné la dernière émission de télé, Escale en Languedoc. Alors, j'étais avec lui sur le tournage, on a passé un bon petit moment comme ça.
Ça ressemblait à quoi, sa maison?
sa maison, elle avait rien de somptuaire, ni extraordinaire. Je crois d'ailleurs que c'était Pupchen qui s'occupait de la décoration, et donc c'était...
Il y avait tous les disques d'or, paraît-il, dans le salon. Mais non, c'est pas vrai, je plaisante. Il est consterné. Mais ça, c'était pas du tout le genre de la maison, je m'imagine. Françoise Canetti, vous avez choisi vous aussi un titre de Georges Brassens, La mauvaise réputation, mais une reprise signée Sandra Nkake, qu'on l'on trouve dans le coffret. Peut-être un mot sur ce choix, d'abord, cette chanson et cette interprète.
Alors, cette interprète, d'abord, je trouve que l'interprétation de Sandra Nkake de La mauvaise réputation est absolument magnifique. Et puis, le passé de Sandra Nkake aussi m'a intéressée. Elle a commencé comme comédienne. Elle a joué dans Les Sorcières de Salem. C'est quand même pas rien quand on chante, quand on choisit ensuite de chanter La mauvaise réputation. J'aimerais aussi quand même ajouter qu'elle préside une association qu'elle avait créée, je crois, avec Higelin, qui s'appelle l'association Au banc public. Au banc public, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est vraiment empreinte de la pensée de Brassens. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette version qu'elle chante de La mauvaise réputation. Puis j'aimerais aussi quand même ajouter que La mauvaise réputation, c'est quand même la chanson qui a fait que Brassens est devenu ce qu'il est devenu. C'est-à-dire, il a souffert lui-même de la rumeur, d'être mis au banc de la société. Il a souffert de ces mots qui tuent. Et ça m'a semblé important, à quelques jours finalement, ça fait quand même un an que Samuel Paty est mort. Ça m'a semblé important que cette chanson vienne ce soir, parce que la mauvaise réputation, la rumeur, ces mots qui tuent, ces réseaux sociaux qui assassinent les gens, qui font qu'on assassine les gens, ça me paraît important de montrer que Brassens avait prévu ça et qu'il le chantait bien avant qu'on comprenne ce que ça voulait vraiment dire dans nos vies.
Bon village sans prétention. J'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne. En suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi.
Je ne tiens pas à ce qu'on m'admire parce que ce que je fais, c'est très simple. J'ai la facilité d'exprimer quelque chose, une tristesse ou une joie, et d'autres ne l'ont pas.
La mauvaise réputation signée pour cette interprétation par Sandra Nkake, qui sera, Marion,
notre invitée mardi prochain dans Côté Club.
À propos des reprises, Joël Favreau, vous aussi, vous avez participé, vous avez initié des albums de reprises, Chantons Brassens, avec Françoise Hardy, avec Alain Souchon, Manu Dibango, Philippe Léotard. C'est curieux parce que vous parliez d'Higelin tout à l'heure, avant la chanson Françoise Canetti, et Higelin, ça n'a pas véritablement marché.
Higelin, je crois qu'il m'a dit qu'il se dégonflait de chanter Brassens. Autant il était prêt à toutes sortes d'aventures improbables, mais Brassens, là, il voulait pas trop y toucher.
Vous comprenez la raison pour laquelle Higelin...
Je sais pas, je peux qu'émettre une hypothèse. Je crois que c'est un piège à comédien. Higelin, c'est quelqu'un de très extraverti, alors que Brassens écrit et parle en dessous. Alors si on surjoue, ça perd de son efficacité. Et je comprends qu'il ait pas voulu relever ce défi.
Quelle est la difficulté d'ailleurs de ce type d'album de reprise? Parce qu'il y en a plein qui sortent en ce moment. Pour vous qui l'avez supervisé à l'époque.
À l'époque, je crois que c'est... Déjà, il fallait orchestrer. C'était pas évident et en plus moi au départ je voulais faire un album d'accompagnement pour que ceux qui savent pas jouer la guitare aient le plaisir de chanter Brassens. Et le producteur Alain Puglia m'a dit d'accord, mais on fait aussi une version chantée, trouve-moi des noms.
Ah ben, je vous avoue que j'avais été votre producteur, j'aurais dit exactement la même chose.
Ben oui.
Et vous avez trouvé pas mal de gens, enfin c'était ben, oui, énorme aussi, le casting était énorme.
Ben oui, va dire le fait que Cabrel était dans le coup a aidé à débloquer pas mal de choses. Maxime m'a dénoncé Manu Dibango, il m'a dénoncé aussi plusieurs personnes. Je connaissais un peu Pierre Richard d'avant. Et puis ça s'est fait d'une façon très souple, très naturelle. Et ça me laisse penser une chose, et d'une façon plus générale, chaque fois que j'ai participé de près ou de loin à quelque chose qui concernait Brassens, chaque fois, quelle que soit la manifestation, il y a toujours eu une ambiance spéciale. Et en l'occurrence, dans ce disque, les techniciens du studio qui en avaient vu d'autres me disent qu'ils n'avaient jamais vu une ambiance pareille. Aussi cool, enfin aussi bienveillante, quoi.
Vous confirmez que chaque fois qu'il y a quelque chose autour de Brassens, quelque chose se passe, François Scanetti?
Ah mais c'est absolument, je suis complètement d'accord avec vous Joël, parce que moi, pour monter là ce coffret 4 CD, j'ai été très frappée de la facilité, de la bienveillance des gens. Vraiment, enfin, il y a un esprit Brassens qui plane, voilà.
Je voudrais pas lui faire de la peine, hein, parce qu'il n'y croyait pas. Enfin, peut-être qu'il continue à nous protéger, ou alors peut-être que c'est son énergie particulière qui continue à être diffusée et être vivante.
Eh bien, on va se quitter tout de suite avec Pomme, voyage au pays des séquoias. Alors, le lien avec Brassens, à vous de vous faire une idée. Pomme a des convictions, voilà. Elle a des mots, la musique et la guitare pour se faire bien entendre sur France Inter.
Tourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois.
Et bien voilà, c'est la fin de Côté Club. Salut les copains d'abord, c'est absolument fini. Merci à vous deux, François Scanetti, merci à vous.
Merci.
Je rappelle, Elle est à toi, cette chanson, coffret anniversaire de 70 titres, 4 CD et des documents rares. Un coffret qu'on trouve uniquement à la FNAC. Joël Favreau, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. un livre, Quelques notes avec Brassens, édition L'Archipel, deux albums, Salut Brassens avec Jean-Jacques Frinchin et Neuf, c'est l'album de vos propres compositions. Et je signale que vous serez sur scène le 23 octobre à Coudou et le 29 à Ancenis. François Morel et Yolande Moreau, c'est Brassens dans le texte, un album qu'on pourra découvrir sur scène à 7 vendredi 22 octobre pour un concert en direct sur France Inter et j'y serai. Marion ?
L'exposition Robert Combas chante 7 et Georges Brassens, c'est au musée Paul Valéry à 7 jusqu'au 31 décembre 2021 et le coffret de 10 vinyles de Brassens illustré par Combas, c'est sorti le 8 octobre chez Universal.
Des commémorations, il y en a absolument partout en France. À noter que le Hall de la Chanson à Paris célèbre Brassens à Paris jusqu'au 22 octobre avec des spectacles, des cafés chantants et dansants et aussi deux grands bals gratuits. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain ?
Qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit mollo sur le Destroy.
Mollo, pas sûr avec les barrés d'Aquaserge et on ouvrira nos chakras avec Naga Part 2. Nouvel album mystique de Flesh Love. Marion, pour vous ?
On fera un zoom sur Mourir au large, le nouveau titre de la Québécoise Safia Nolin.
Côté club, c'est une équipe sans fausse note. Étienne Bertin à la réalisation, avec par-ci par-là des touches à la Stéphane Le Guenec. À la technique, c'est Mathias Alléon, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic. Ça, c'est pour la programmation. Et enfin, Valentine Chedebois en solitaire, mais toujours aux playlists. Allez, côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.
Je crois que j'ai renoué avec les troubadours qui chantaient sans avoir la prétention de chanter.